lundis 20h30 à 21h30 sur Chiz 94,3 FM.
Le théâtre Premier Acte présente un arrière-goût de compost.
Christophe?
5 ans après la disparition de son grand frère, Éléonore l'aperçoit par hasard dans le jardin communautaire de leur enfance. S'ensuit un débat animé autour de l'abandon, des troubles alimentaires, du jello et des chats morts. Venez découvrir ce huis clos à la fois drôle et touchant, présenté du 8 au 19 octobre 2024.
Bonne fête. Je te souhaite bien du bonheur, puis des flats à vélo.
Une production du Théâtre du Refuge, billets en vente sur premieracte.ca.
Premier Acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse Desjardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec et Le Soleil.
Passe d'abord, c'est bien fait! Le tir est le but! Les Remparts de Québec accueillent les Olympiques de Gatineau ce jeudi 17 octobre à 19h au Centre Vidéotron. Rejoignez Rick Loutier sur nos ondes dès 18h45 pour l'avant-match. Remparts Olympiques, jeudi à 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante communication avec S à commercial allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Bon mercredi à tous. Vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Ici Noémie, votre animatrice. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission du Retour à la maison. Et aujourd'hui, à l'émission, on a des invités de marque, en commençant par Cyril Pringault, qui est organisateur communautaire pour le RAIC, le Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec. On va parler de la 35e édition de la Nuit des sans-abri qui a lieu ce 18 octobre au parc de l'Université de l'Université du Québec dans la ville de Québec, mais aussi partout dans la province. Par la suite, à 16h30, on va avoir la chance de discuter avec Léa Clermont-Dion de son nouveau livre « Salut, ça va » ainsi que du film documentaire « La peur au ventre » qui va être diffusé le 21 octobre à 20h sur les ondes de Télé-Québec. On va aussi parler cinéma avec Nathan Murray et théâtre avec Margot Ganassa. Alors, avec moi en studio, je suis vraiment très heureuse d'accueillir Cyril Pringault, comme je le disais, organisateur communautaire au RAIC. Salut!
Allô!
Très heureuse que tu viennes nous parler de cette 35e édition de la Nuit des sans-abri qui a lieu ce vendredi un peu partout à travers le Québec. Peut-être pour commencer, c'est quoi ça, la Nuit des sans-abri? C'est quoi l'histoire derrière cette initiative?
C'est une initiative qui est née il y a 35 ans, 35e édition, dans une volonté d'exprimer une solidarité avec les personnes en situation d'itinérance en passant à l'origine une soirée et une nuit avec elles dans la rue. Cette tradition s'est un peu perdue ces dernières années pour toutes sortes d'enjeux à Québec, en tout cas au centre-ville. Passer la nuit, c'est compliqué, mais on continue la formule en passant au moins une bonne partie de la soirée avec ces personnes en situation d'itinérance, des personnes qui ont vécu l'itinérance, qui la vivent ou qui sont en train de le vivre, ou des personnes qui ont la chance d'avoir un toit, mais qui veulent partager un moment de soirée, de rencontre, de solidarité avec les personnes en situation d'itinérance. C'est un moment de rencontre, un moment de partage, un moment de dons. En fait, on fait des dons aussi. Des dons, il y a beaucoup de dons, de gens qui donnent du linge, de la bouffe, de toutes sortes de dons. Puis de vraiment d'échanges. Je rappelle souvent, c'est le mot échange, moi, qui me marque pour la nuit sans abri. C'est l'occasion de rencontrer des personnes en situation d'itinérance qui ont des visages. Cette année, je fais un petit coup de pouce sur le thème de cette année à travers la province. C'est l'itinérance sans visage, donc sans S-A-N-S, sans 100, le chiffre. L'itinérance qui n'a pas de visage, mais c'est aussi sans visage. C'est 100 visages différents. Et c'est sans visage, on ne met pas de visage. Souvent, on détourne le regard quand on voit une personne en situation d'itinérance. On ne s'approche pas d'elle. Ou on ne la regarde pas, on ne prend pas le temps de s'approcher. Cette soirée de la nuit sans abri, c'est l'occasion de s'approcher, de communiquer, d'échanger, encore une fois, avec les personnes en situation d'itinérance.
Ben, parlons-en là, de ces 100 visages-là. Parce que le portrait de l'itinérance, ben, souvent... Dans l'imaginaire collectif, on pense à l'itinérance qui est visible, mais on s'entend que c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que tu peux nous vulgariser un peu, c'est quoi les différents types d'itinérance?
Une itinérance, une personne qui a un emploi, qui est je veux dire au salaire minimum, mais pas forcément au salaire minimum, qui vient de perdre son logement parce qu'il se fait renovité, parce qu'il vient de se séparer, une femme qui vient de se séparer, un homme qui vient de se séparer, qui se retrouve à dormir chez un ami, chez un chum, deux nuits ici, trois nuits là, se retrouve à cette nuit, je dors dans mon char, parce que j'ai un char, je suis pas en situation d'itinérance, j'ai un char, je suis correct. Mais c'est des itinérances, c'est pareil, c'est des épisodes de vie qui peuvent durer quelques semaines, quelques mois, quelques années, qui peuvent se rétablir très vite. Puis ça va pas paraître forcément la personne quand tu as travaillé ou quoi, mais en intérieur d'elle, elle a vécu beaucoup de stress, beaucoup de trauma, beaucoup de situations pas agréables. Ça peut être aussi l'étudiant qui étudie, je suis ici à l'Université Laval, des étudiants qui sont à, je vais pas dire de chiffres, mais qui sont à 4 dans un petit 1,5, 2,5 qui se relaient pour dormir parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer de logement. Ou parce que, bah, pareil, pour toutes sortes d'enjeux, ils se séparent leur chum, leur blonde qui vient de Chibougamau, puis là, il est à Québec, puis il connaît plus personne. Qu'est-ce qu'il fasse? Bah, ils se débrouillent, ils vivotent ici, là. Des personnes, ça, comme je disais, qui travaillent, qui ont un emploi, mais qui se retrouvent pour toutes sortes de raisons sans logement, qui se retrouvent à devoir dormir dans leur char, si j'en ai un, où elles peuvent, dans des refuges, etc. Ça peut être des accidents de parcours, une séparation, un trauma, soit un trauma physique, soit un trauma, une séparation difficile, par exemple, ou une perte d'emploi, une perte de confiance, tu perds tes moyens, tu perds ta job, tu perds tous tes repères, tu te retrouves à la rue. Ou aussi, il y a la personne qui malheureusement baigne dans les enjeux d'itinérance depuis toute petite, qui a eu des parents qui ont un parcours un petit peu compliqué, qui connaît le centre jeunesse par exemple, qui se retrouve à 18 ans à faire comme ouf, ok, un petit sac à dans le temps, tu sais, ils ont donné un sac poubelle avec des affaires aux jeunes qui sortaient du centre jeunesse, c'était assez, assez terrible comme image. Donc ça peut être toutes sortes de parcours, sans visage, sans parcours, tu prends 100 personnes dans la rue, tu auras 100 personnes qui avaient des parcours différents, des anciens ingénieurs, enseignants, commerçants, sportifs de haut niveau, vétérans, des femmes qui ont connu de la violence conjugale, il y a toutes sortes de visages.
Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, puis il faut juste comme quelque chose qui arrive dans ta vie, puis en fraction de seconde, ben tu peux tomber en situation d'itinérance.
Ça peut aller très vite, ça peut aussi bien tu peux comme je disais, presque être né dedans entre guillemets là, dans la situation dans une famille. Pas conventionnel, on va dire, peut-être plus dysfonctionnel. Tu connais la misère, tu connais pas tes parents. Nouveaux arrivants, si des personnes nouvellement arrivées au Québec qui se retrouvent dans toutes sortes d'enjeux, qui se font faire des coups de pas de passe, puis ils se retrouvent sans logement avec des enfants à la rue. Ça arrive, il y a toutes sortes de profils. On pourrait passer des heures à décrire toutes sortes de profils qu'on peut retrouver dans la rue.
Ben oui, c'est ça. Puis, ben, tu sais, je prends le temps, vu qu'on est dans les murs de l'Université Laval, tu sais, on t'a parlé un peu au niveau des jeunes, des étudiants et étudiantes, mais ça ressemble en quoi? Là, c'est une grosse question. Là, puis j'ai que ça, c'est une question sur laquelle on aurait pu passer une heure et demie à jaser et bien plus, mais ça ressemble à quoi le portrait de l'itinérance chez les jeunes, que ce soit des jeunes adultes, mais aussi des mineurs ou des...
On remarque beaucoup d'enjeux de santé mentale chez les plus jeunes qui sont en situation d'itinérance, beaucoup d'enjeux de consommation, on ne va pas se le cacher aussi. C'est toujours l'œuf ou la poule, est-ce que tu consommes des enjeux de santé mentale, parce que des gens de santé mentale, tu te mets à consommer pour les fuir, pour les calmer, pour les apaiser. Puis tu te retrouves avec des manques d'argent pour consommer, tu te retrouves avec toutes sortes de problèmes, tu te fais expulser de chez vous, tu te retrouves à la rue. Ça peut être un parcours chaotique qui peut arriver à bien des jeunes. Ça peut être un jeune qui sort d'un centre jeunesse, comme je disais tout à l'heure, là, qui se retrouve, bien qu'on lui propose toutes sortes d'accompagnements, qui ressort de là multi-traumatisé par toutes sortes d'événements qu'il a pu vivre notamment dans sa jeunesse, puis qui n'est pas apte à, même si on l'accompagne dans un appartement, qui ne se sent pas chez lui, qui ne se sent pas chez eux, qui n'a pas de chez eux, qui manque de repères dans la vie. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, comme je disais, un étudiant aussi qui vit une situation d'itinérance. Puis souvent, ces personnes-là, ces dernières catégories que j'aborde là, ne se reconnaîtront, ne se reconnaîtraient, ne se reconnaîtront pas, pardon, comme personne en situation de tolérance, une personne qui fait ses études, mais comme je disais, qui dort sur un canapé chez un ami, dans sa voiture une semaine ici et là, considérera pas que c'est un enjeu d'itinérance qu'elle vit, mais ça en est pareil. Il y a toutes sortes de profils aussi chez les jeunes, mais donc c'est ça, c'est souvent, c'est pas souvent, j'ai pas de chiffres, je veux pas avancer de chiffres, je les connais pas, je les ai pas par cœur. Puis chez les jeunes aussi, on constate beaucoup malheureusement de violence, et puis de violence de consommation, et donc des vautours, des gens qui rôdent autour de ça, qui repèrent des personnes plus faibles, éventuellement qui peuvent les embrigader dans des réseaux de prostitution, dans des réseaux de gangs, dans des réseaux de... Quand t'as pas de famille, quand on te propose une famille, quand on te donne un petit peu d'argent pour faire une petite mission basique, tu te dis, hey, c'est mes chemins qui me donnent de l'argent pour faire, je sais pas, déposer ci ou chercher ça à telle place. Tu rentres dans une gang, tu rentres dans une sorte de profil, de dynamique. Fait que c'est un portrait parmi 30 d'autres, hein. Je veux pas généraliser, il y a plein de sortes de portraits chez les jeunes, mais ça en fait partie, c'est ça.
Ouais. Puis là, il y a tous les aspects de survie qui embarquent, de tout ce que tu me nommes, la consommation, de dormir à gauche, à droite, c'est la survie qui embarque pour parvenir à survivre ces moments qui sont pas faciles, la vie de la rue.
Puis la recherche de communauté aussi, quand tu fais embrigader dans une communauté qui un gang étant une communauté, un réseau de prostitution étant une communauté, un pimp peut être une image paternelle, peut être une image rassurante pour une personne, alors que peut-être qu'elle vit très bien comme ça, mais peut-être qu'elle se fait exploiter aussi. Des gens qui manquent de repères, qui ont des repères pas conventionnels, on va dire, et qui peuvent se retrouver dans toutes sortes de dynamiques, qui se retrouvent en situation d'itinérance visible ou non visible, encore une fois, ça peut être toutes sortes de profils.
Puis la nuit des sans-abri qui a lieu, je le rappelle, ça a lieu ce 18 octobre au parc de l'Université du Québec pour l'événement qui est à Québec, mais comme tu disais un peu plus tôt, ça se passe aussi partout à travers la province.
C'est ça, il y a un autre truc qui parle à travers la province, mais même à travers la ville de Québec. En fait, il y a quelque chose qui est très parlant, c'est qu'avant, historiquement, la nuit des sans-abri, c'est un événement du centre-ville pour toute la ville de Québec. Puis maintenant, il y a des initiatives locales, donc il y en a 4 en périphérie, Sainte-Foy, Loretteville, Charlebourg et Beauport, qui ont leur propre nuit des sans-abri, plus petite, plus modeste, mais quand même, ils tiennent à avoir leur propre initiative, leur propre événement, parce qu'ils ont leurs propres enjeux en fait, locaux, leur propre monde, leur propre dynamique qui est différente du centre-ville. Et ça parle, en fait. Ça veut dire que les enjeux d'itinérance sont plus seulement au centre-ville, sont aussi en périphérie. Et pareil, à travers le Québec, il y avait le nombre d'initiatives répertoriées, parce qu'elles ne sont pas toutes répertoriées officiellement, par notre regroupement national, c'est 80 ou 90 nuits sans-abri. Et c'est un chiffre qui monte beaucoup. Moi, il y a quelques années, il y avait encore 30 seulement. Donc ça monte, ça parle beaucoup. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se questionnent, qui veulent que ça se sache qu'il y a des enjeux d'itinérance, qu'on a beau le crier haut et fort dans tous les médias, toutes les concertations auxquelles on peut participer, l'itinérance est de plus en plus visible. Et puis, il y en a aussi de la non-visible, comme on disait. Mais c'est un enjeu qui intéresse et qui révolte et qui inquiète de plus en plus les citoyens. Et donc, une des résultantes de ces préoccupations, c'est la mise en place de certaines nuits des sans-abri dans différents endroits.
Puis à quoi on peut s'attendre dans la nuit à une nuit des sans-abri? Qu'est-ce qui est mis en place dans ces soirées-là? Quelle activité qui est proposée aussi? Parce que pas, je tiens à le nommer, c'est pas une initiative qui est seulement pour les personnes en situation d'itinérance, mais c'est vraiment pour tout le monde.
C'est ça.
Tout le monde est bienvenu.
Comme je disais, c'est le mot échange qui vient. C'est ça, c'est à l'esprit, c'est moins échange. C'est un moment, on veut justement, cette année, on a reparti... C'est une initiative qui est portée par plein de citoyens et plein de d'organismes communautaires. Cette année, on a essayé de donner vraiment plus la parole et accompagner les personnes premières concernées dans qu'est-ce qu'elles voulaient pour la nuit sans abri. C'est quoi la nuit sans abri pour elles? Qu'est-ce qui ferait qu'elles viendraient à la nuit sans abri versus un événement où elles se sentiraient exclues? Mais c'est juste, c'est niaiseux, mais c'est des moments en fait de musique ensemble. En fait, on va avoir de la musique cette année, on va avoir un kiosque de musicothérapie qui était déjà l'année passée mais qui revient. On va avoir un événement de karaoké de 7h à 9h, c'est ça.
Wow.
De 9h à 10h, puis de 10h à 11h, on a différents événements comme le street show, le talent de la rue, comme on l'appelle en français. Le talent de la rue où on a des personnes qui ont connu l'itinérance ou qui sont en situation d'itinérance qui auront l'occasion de performer sur scène. Devant la foule. Et puis le karaoké, donc de 7 à 9, on aimerait ça vraiment qu'il y ait des jumelages en fait, qui se passent entre personnes en situation d'itinérance ou qui l'ont été et monsieur, madame qui vient de Beauport ou de Sillery qui vient là du sans-abri sur la pointe des pieds, puis montrer que t'as vu, chanter ensemble, c'est créer des moments d'échange de d'émotions en fait. Et la bibliothèque vivante aussi qui va servir à ça pour exposer certains profils, certains parcours. La bibliothèque vivante, donc c'est une personne qui partage en fait son parcours, ses enjeux qu'il a vécu, qui s'ouvre en fait comme une bibliothèque vivante. Mmh. Puis les personnes dans la tente écoutent son parcours.
Mmh. Puis cet événement, ça commence à 6 heures.
À 4 heures. La place de l'Université du Québec, c'est 4 heures. Okay. J'ai pas les horaires en tête de toutes les NSA, les nuits sans abri qui ont lieu en périphérie, mais à la place de l'Université du Québec, donc la plus grosse initiative, c'est de 16 heures, 4 heures, jusqu'à 23 heures. Mm-hmm. Il y a, comme je disais, plus la nuit entière pour toutes sortes d'enjeux. L'éthérence a changé, la dynamique a changé. C'est beaucoup plus compliqué d'organiser une veillée toute la nuit, mais c'est ça.
Je pense qu'il y a aussi la nuit sans abri, ça se passe à tous les troisièmes vendredis du mois.
Exact.
Pourquoi est-ce que c'est ce moment-là qui est choisi puis qui revient d'année en année?
Tu m'en poses une bonne colle. Je sais pas du tout. c'est souvent parce que c'est à l'approche de l'hiver. Ouais. C'est aussi l'occasion, comme je disais, c'est des occasions d'échange, mais c'est aussi des occasions de dons. Donc il y a beaucoup de, on aura beaucoup de manteaux, pardon, à donner, des manteaux, des bas. Des chandails chauds, etc., pour l'hiver qui vont être donnés. Donc, c'est à l'approche de l'hiver, c'est sensibiliser quand même la population. On le voit, là, il y a un beau printemps, un beau début d'automne, belle fin d'été.
Là, il commence à faire froid.
Puis, tu sais, vendredi, on va commencer à faire froid, faire quand même, c'est frisqué, mais c'est rien. On s'entend que c'est encore super doux par rapport aux moins 40 qui vont arriver cet hiver, qu'il y aura des gens qui seront dehors encore par moins 40.
Mmh. Peut-être pour conclure, tu sais, comme se sensibiliser à la réalité des personnes qui sont en situation d'itinérance, d'errance, ben tu sais, c'est un effort collectif. Mmh. Peut-être pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, ce serait quoi les comportements de tolérance à avoir face à une personne qui est en situation d'itinérance ou d'errance visible?
OK. Mais il y a toujours le mot tolérance, je suis toujours... Comment dire, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que c'est sûr qu'il y a des fois des comportements qui sont plus tolérables quand tu vis des enjeux de personnes des personnes qui font toutes sortes de choses devant chez vous. C'est normal que ta tolérance soit à bout tolérée. Moi, je comprends vraiment les personnes qui sont à bout. Puis c'est pour ça qu'il faut revenir en arrière sur tous les enjeux qui les amenaient à faire des crises ou à vraiment être dérangeantes. Mmh. Mais l'idée, en fait, de base, c'est tout d'abord une personne qui est dans la rue, ça se peut qu'elle veuille juste que tu lui saques ta paix. Tu peux lui demander simplement, est-ce que tu vois qu'elle file pomme, tu arrives à avoir un regard auprès d'elle, si tu t'approches tranquillement, tu peux t'approcher tranquillement d'elle, te mettre à sa hauteur, te mettre pas trop loin, pas trop près, pas dans sa bulle, pas trop loin pour pas avoir l'air d'avoir peur d'elle, mais lui demander juste un salut, ça va? La personne te répond oui, non, déjà oui, ça va, ben, trace ton chemin, c'est bon, elle a peut-être besoin de rien. Tu partages tes observations, est-ce que ça va, est-ce que tu as l'air d'avoir froid, est-ce que tu as l'air d'avoir faim, est-ce que je pourrais t'aider, est-ce que tu as besoin d'une ressource, est-ce que tu as besoin de quelque chose. La personne, juste ça peut faire ça peut faire sa journée, ça peut faire son mois, sa semaine, son année, genre des sourires ou une petite phrase ou un petit don, des fois ça donne tellement d'énergie. Fait que c'est aborder tranquillement une personne puis lui demander oui, non, tu as besoin de quelque chose. Trace ton chemin, c'est pas plus compliqué que ça.
D'être à l'écoute.
C'est normal que ça puisse être impressionnant. Puis si on se sent pas à l'aise de le faire, ben c'est correct de le faire. De pas s'approcher. Mais. Puis c'est ça. Être humain, en fait, avant tout, en fait, revenir à nos instincts normaux, primaires, qui sont d'aller voir l'autre et de lui demander comment ça va.
Eh ben, merci beaucoup, Cyril, d'être venu à Chérie J'arrive pour parler de la 35e édition de la Nuit des Sans-Abri qui a lieu, entre autres, au centre-ville de Québec, à la place de l'Université du Québec, mais aussi dans
Beauport,
différents lieux.
Beauport, Loretteville, Charlebourg et Sainte-Foy.
Yes.
Ouais.
Fait que c'est un rendez-vous. Vous pouvez suivre la Nuit des Sans-Abri directement là, sur les réseaux sociaux ou même sur le site web aussi pour voir se passent les différentes initiatives près de chez vous.
Ouais.
Yay! Yeah. Hey, ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Et pour notre part, chers auditeurs et auditrices, on continue en musique avec une nouveauté. C'est le projet musical Curpip qui a sorti un nouvel album. Et on va écouter une chanson de ce dit nouvel album. Ça s'appelle, pardon, Le choix du président. Vous écoutez toujours Chérie J'arrive sur Zone de Schiste 94.3. C'était la chanson Le choix du président de Curepip, tout droit sorti de leur nouvel album J'ai trouvé Jésus, qui est paru le 11 octobre dernier. On va continuer avec d'autres nouveautés parce qu'il y en a eu beaucoup dans les derniers jours. J'ai envie de vous faire découvrir un projet de Washington, projet shoegaze qui s'appelle Spiral XP. Ils ont aussi sorti une nouvelle chanson le 11 octobre dernier. Fait qu'on va écouter ça ensemble. Mais là, chers auditeurs, auditrices, restez à l'écoute car à 16h30, ma collègue Frédéric, qui travaille pour, qui est journaliste culturel pour Impact Campus, le journal des étudiants et étudiantes de l'Université Laval, va me rejoindre pour une entrevue avec Léa Clermont-Dion. On va parler de son cinquième livre qui s'appelle « Salut, ça va? Dialoguer pour prévenir les violences sexuelles ». Donc, on va avoir la chance de parler avec elle, mais aussi de parler de son nouveau documentaire qui va être diffusé le 21 octobre prochain à 20h sur les ondes de Télé-Québec. Alors voilà, ça s'appelle « La peur au ventre ». On va aussi l'occasion de parler de ça avec elle. Mais avant toute chose, on continue en musique avec Spiral XP, la chanson « Window Room ». Vous écoutez toujours, chérie, j'arrive. C'est le zone de Schiz 94.3.
Thank you. panier, au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
M'a te parlé une autre bière, Jacques.
Ah, y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire la bière, Éloi.
Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate.
Hey, ça paraît que t'écoutes pas à l'antenne sur Chiz. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goodzelanick en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, puis en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes, parlait plein d'autres affaires.
Ben coudonc, c'est jeudi de 13h à 14h en plus.
Sur les ondes de Chiz, 94.3.
Incroyable! Il ne paye pas le prix!
Renversant!
Le mental!
Super!
Mental toughness!
Pour vivre la folie d'ici, branchez-vous à Constante Sportive les lundis de 14h à 15h afin de suivre l'actualité du Rouge et Or et du sport universitaire.
Et pour ne rien manquer dans le monde du sport professionnel, c'est les vendredis de 15h à 16h que ça se passe.
OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire.
Constante Sportive, c'est un rendez-vous les lundis et vendredis.
Sur les ondes de Chiz 94.3.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric
et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Votre quotidien amoureux manque de piquant? Celui de Lou et Ben aussi. Découvrez comment Yels ont tenté de raviver la flamme et comment Yels se sont retrouvés enfermés à l'arrière d'un camion vers nulle part et partout à la fois. Les lundis à 17h sur Chiz 94.3. Du théâtre pour les oreilles, Recalcul est une émission présentée par Tête de l'art.
Vous écoutez toujours Chérie J'arrive sur le zone de Chiz 94.3 et je suis accompagnée de ma co-animatrice pour cette entrevue, Frédéric, bonjour.
Allô.
Et on est très heureuse d'accueillir à l'autre bout du fil Léa Clermont-Dion qui est autrice, documentariste et docteur en sciences politiques. Salut Léa.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on est extrêmement heureuse de t'avoir à l'émission pour, entre autres, parler de ton cinquième livre, « Salut, ça va? Dialoguer pour prévenir les violences sexuelles », un livre qui s'adresse aux jeunes, aux parents et aux professeurs pour ouvrir la discussion sur les violences à caractère sexuel. Comme je l'ai dit, c'est ton cinquième livre. Ça a été quoi la genèse de l'écriture de « Salut, ça va? »
Mais en fait, c'est vraiment une expérience sur le terrain qui m'a un peu transformée parce que je travaille beaucoup aussi en prévention des violences à caractère sexuel depuis plusieurs années. Donc, je suis moi-même chargée de cours, je donne des conférences en fait sur la question des violences à caractère sexuel. Puis je me suis rendu compte en rencontrant particulièrement des jeunes du secondaire qu'il y avait encore des notions à revoir. Là, tu sais, on prend vraiment pour acquis que le consentement sexuel, tout le monde sait c'est quoi. Mais au contraire, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement toujours bien compris de façon incarnée. Alors, ça a été ça, la genèse, puis la bougie allumée dans ce projet-là. Et aussi, je me disais, bon, j'ai souvent parlé à des personnes qui étaient peut-être plus convaincues, qui étaient déjà très sensibilisées et informées. Dans les salons du livre, souvent, des fois, les lectrices viennent me voir. C'est des lectrices, justement, c'est des filles qui sont à l'université. Et là, j'étais comme, non, j'aimerais ça parler à des jeunes hommes, des jeunes filles du secondaire, parce que je l'avais jamais fait auparavant. Puis ça m'a demandé d'adapter aussi un peu mon style, ma façon d'écrire, mais ça m'a fait vraiment plaisir, en fait, de faire ce projet-là. Puis je suis heureuse de constater que la voix se porte finalement, parce que j'ai déjà des témoignages de jeunes, puis c'est encourageant.
Oui, puis comme tu l'as dit, c'est des notions qui sont pas... toujours facile. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a beaucoup aimé dans le livre, c'est comment tu réussis à synthétiser, à vulgariser des notions, des réalités justement qui sont complexes, puis de pas tomber non plus dans la sursimplification, disons. Et ça a été quoi ton plus grand défi durant l'écriture du livre?
Ben, je pense que c'est justement ça le défi le plus difficile pour moi, c'était de garder cette ligne-là. Je voulais pas simplifier à outrance, disons que j'avais aussi, mais c'est des notions complexes quand même. Alors, on veut pas que ça soit indigeste à lire comme ouvrage. Alors, c'était vraiment comme une espèce de fil d'équilibre à suivre, puis pour pas tomber justement. Et ça a été compliqué, puis de trouver le bon ton. Je voulais pas avoir un ton qui était infantilisant, qui était culpabilisant non plus. J'ai l'impression qu'on culpabilise toujours les jeunes d'être trop ou pas assez ou quoi que ce soit. Donc, c'était pas ça non plus l'objectif. Puis de trouver finalement une structure qui était cohérente au livre, comment faire pour toucher le cœur des jeunes, ben en fait, justement, je voulais passer par les émotions parce que les apprentissages, ça se fait souvent plus par le cœur que par la tête. Je veux dire, on se rappelle de moments dans nos salles de classe avec nos professeurs où on échange. C'est ça qui est le plus stimulant que juste se faire balancer du contenu de façon très, très désincarnée. Alors, c'est pour ça que j'ai intégré des témoignages dans le livre pour susciter peut-être une empathie puis dire, OK, les violences à caractère sexuel, c'est grave, c'est important et ça peut avoir des conséquences néfastes sur la vie des victimes. Pourquoi et comment? Et comment est-ce qu'on peut les prévenir, justement, comme personne, comme allié, comme société également. Donc, c'est tout ça que j'essayais de décortiquer dans le livre.
Puis dans
c'est un défi.
Puis dans le livre, en fait, ça va, c'est le livre est séparé en trois parties. Comprendre, ressentir et s'inspirer, dans lequel qu'on retrouve des témoignages, des définitions, des histoires vraies, des exemples, des poèmes même, mais aussi des solutions. Puis des exemples significatifs. Puis on se demandait, Frédéric et moi, comment tu vas dans les écoles, comme tu l'as nommé. Tu es même aussi, tu travailles au centre de recherche à l'Université de Concordia qui est spécialisé en pédagogie sociale. Vous avez mis en place la campagne onsécoute.com dans lequel vous offrez des conférences, mais des témoignages et plein de pistes de solutions pour éduquer les jeunes des universitaires, mais aussi au niveau collégial par rapport aux violences et caractère sexuel. Puis on se demandait aussi, dans les écoles secondaires depuis 2024-2025, il y a le retour de l'importance de l'éducation sexuelle dans les écoles. Est-ce que depuis que ça a été réimplanté, ça, dans les écoles secondaires, est-ce que tu vois une différence depuis le début de l'année, 2024-2025? Est-ce que tu as eu l'occasion de retourner dans les écoles?
Non, écoute, c'est trop rapide là pour évaluer quoi que ce soit. Ouais. Franchement, c'est difficile. Par contre, il y a quelque chose qui se passe depuis 2 ans qui est Internet délire. J'exagère un peu, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment une forte désinformation qui persiste en ligne sur certains réseaux sociaux. Il y a des influenceurs qui colportent de mauvaises nouvelles et surtout de mauvaises informations sur la question des violences à caractère sexuel. Donc, on a droit à un festival de plein de mythes et stéréotypes qui sont lancés ici et là, donc sans qu'il y ait correction des faits. Et ça a une influence directement sur les perceptions des jeunes des enjeux d'égalité. Donc, par exemple, le MeToo est très mal vu par certains jeunes. On a tendance à dire que justement c'est une chasse aux sorcières, qu'on est allé trop loin, que finalement les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles vont mentir, vont chercher à avoir l'attention, etc. Donc là, l'heure est grave parce que il faut rectifier ces faits-là. Et c'est quelque chose qu'on observe. Après le cours d'éducation à la sexualité, dont le cours de culture et citoyenneté québécoise qui doit mettre de l'avant notamment certains aspects de cette éducation-là sexuelle, ben ce qu'on nous dit en fait, c'est que c'est difficile de tout enseigner, c'est difficile pour les enseignants qui sont déjà extrêmement sollicités par le programme, c'est-à-dire qu'ils doivent voir couvrir tellement de matière que comment est-ce qu'on fait pour aborder toutes ces questions-là, ça devient complexe. C'est justement pour cette raison-là que j'ai fait le livre, justement. C'est pour donner un outil d'éducation supplémentaire que les profs peuvent faire lire ce livre-là aux jeunes puis dire, ben regarde, on va commencer par ça, puis après, on s'en reparlera. Ça, j'ai essayé de répondre à ce besoin-là de façon très concrète, mais c'est un contexte qui est compliqué, c'est un contexte qui se transforme très rapidement. Je me suis fait dire par une amie prof au cégep qu'il y a un jeune dans sa classe qui a affirmé qu'il a levé sa main pour dire qu'il trouvait ça bien correct ce qui se passait en Afghanistan pour les femmes. Donc là, tu vas me dire que c'est anecdotique, mais ce n'est pas anecdotique parce qu'en fait, les études à l'international, dans plusieurs États du monde, démontre qu'il y a une montée de l'antiféminisme, de la misogynie, et il y a une montée des discours anti-droits humains. Donc, c'est un contexte qui est extrêmement explosif, et en cette rentrée scolaire, plusieurs profs se plaignent de ces relents-là qui sont dangereux.
On se demandait justement, selon ton expérience, en fait, est-ce qu'il y avait une différence dans ton approche, dans les dialogues que tu vas avoir avec les jeunes versus avec les adultes, des adultes, comme on dit, qui vont avoir une influence là, justement sur les jeunes, sur la manière là, qu'ils vont percevoir les choses?
Oui, je parle différemment à toutes sortes de personnes. Ça dépend qui est devant moi, parce que je pense que chaque personne a son biais ou sa subjectivité. Donc, c'est drôle, les gens me perçoivent différemment là, selon le contexte. Donc, par exemple, des fois, je peux lire des trucs sur moi qui affirment que je suis une féministe misandre, wokiste, dangereuse, alors que d'autres disent plutôt en disant les bon, écoutons, toi t'es assez conciliante, t'es ouverte au dialogue, etc. Donc je m'adapte aux personnes qui sont devant moi, mais j'essaie d'être le plus possible dans le dialogue justement. Mais j'avoue que les jeunes, je trouve ça toujours très stimulant de dialoguer avec eux justement. Je trouve que même si par exemple on ne s'entend pas sur certaines idées, ben, il y a possibilité toujours de se parler. Puis j'avais un étudiant à la session dernière, justement, qui venait plutôt de loin ou d'un autre bagage complètement sur la question, en fait, de l'égalité. Disons qu'il y avait des perceptions qui étaient peut-être un peu plus négatives. Puis c'est un cours que je donnais en sciences politiques qui s'appelle « Femmes et politiques ». Et j'ai vu son regard changer au fil de la session sur les enjeux justement des droits humains, de la citoyenneté des femmes, etc. Et ça a été extrêmement stimulant de voir ce regard se changer. Donc, moi, quand il est question de la nouvelle génération, je suis toujours optimiste. J'ai toujours l'impression qu'il y a matière, à se transformer, il y a matière à changer. Puis quand je dis à se transformer, à changer, j'inclus aussi la personne qui parle, c'est-à-dire que ces dialogues-là me permettent moi aussi de changer. Je dis pas que j'ai l'absolue vérité, au contraire, je pose des questions. Et donc, c'est toujours une expérience très enrichissante de dialoguer avec les jeunes, pour moi aussi. Là.
Puis, comme tu le nommes, je pense que le dialogue... Et tu le prouves très bien dans ton dernier ouvrage, Salut, ça va, que le dialogue, ben c'est la clé pour sensibiliser puis éduquer aussi les jeunes et les moins jeunes sur les violences à caractère sexuel. Puis d'ailleurs, parlant de dialogue, il y a aussi un documentaire qui va être diffusé le 21 octobre,
oui, à 20h.
Qui s'appelle La peur au ventre.
À Télé-Québec, je le précise. Ouais. Ça va être à Télé-Québec, oui.
Ouais, Télé-Québec à 20h, La peur au ventre, puis qui est aussi sélectionné en compétition officielle dans la section documentaire à Cinémania, avec sa version qui est cinématographique. Bravo à toi. Merci. Et c'est en fait ce documentaire-là, j'ai eu la chance de l'écouter. Puis, my God, je sais pas. J'ai eu beaucoup d'empathie pour toi dans ce documentaire-là, où justement tu ouvres le dialogue sur la question du droit à l'avortement. Puis tu parles à toutes sortes de gens, de toutes sortes d'horizons qui ont des opinions différentes sur la question. Brièvement, pour terminer, ça a été quoi ton objectif avec ce documentaire-là, La peur au ventre?
Ben, je commence à être une vieille dame. C'est une blague, mais disons que ça fait quand même plusieurs années que je me questionne sur la question de l'égalité des sexes. Puis j'avoue que j'ai pogné un deux minutes, comme on dit en bon québécois, lorsque la révocation de Roe v. Wade est advenue aux États-Unis le 24 juin 2022. J'ai été prise de court. J'ai eu la peur au ventre, en fait, en voyant le revirement de situation qui est un 50 ans en arrière, là, c'est de revenir 50 ans en arrière. Jamais j'aurais pu imaginer de mon vivant voir que le droit à l'avortement soit remis en question de cette façon-là. Alors, c'est vraiment dans un élan de doute, de questionnement, de réflexion que je me suis dit, est-ce que ça pourrait arriver au Canada? Parce qu'on dit souvent, non, ce qui se passe aux États-Unis, ça ne nous concerne surtout pas, on n'est pas comme eux. Et finalement, ben, je me suis rendu compte que, ben oui, on était peut-être plus près des États-Unis qu'on le penserait. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui voyagent, puis ils voyagent par les réseaux sociaux. La lutte contre l'avortement s'internationalise, puis je le documente dans le film en interviewant une leader internationalement reconnue, puis sur la question qui s'appelle Abby Johnson, qui est contre l'avortement. Mm-hmm. Donc, elle est venue au Canada et son organisation va aussi militer chez nous pour cette question-là. Donc, avec la peur au ventre, je mets vraiment la lumière sur la confrontation, sur la lutte qui s'opère en ce moment au pays. Il y a des gens qui résistent, qui veulent que le droit à l'avortement soit encore protégé. Et il y a aussi, je dirais, l'autre camp qui est galvanisé par l'invalidation de Roe v. Wade, puis parce que par le leg de Donald Trump, si on veut, parce que c'est grâce à Donald Trump que c'est arrivé tout ça. Avec sa nomination de 3 juges anti-avortement à la Cour suprême des États-Unis, ben là, on voit qu'ils ont le vent dans les voiles et que oui, ça s'en vient au Québec aussi. Ouais. Donc, c'est ce qu'on découvre dans le film. Puis ça, je pense que ça laisse personne indifférent de voir ça.
Ouais, moi, j'ai été, pour conclure, là, j'ai été juste abasourdie. Là, j'en reviens pas encore de ton entrevue avec Scott Howard de Right Now, l'organisation politique qui se dise pro-vie, puis qui se concentre uniquement sur l'élection de politiciens qui sont anti-choix au niveau fédéral et provincial dans l'ensemble du Canada, puis qu'eux, leur objectif, c'est juste d'avoir des une chambre des communes qui est majoritairement anti-choix, là, c'est...
C'est drôle parce que moi aussi, c'est une entrevue qui est très, très troublante parce que Scott Howard est très charismatique et brillant, donc c'est ça qui est aussi un peu... particulier parce que ce qu'il dit, c'est épeurant. Mais on voit aussi qu'il y a une force de persuasion puis une force d'organisation sur le terrain. Alors, c'est confrontant quand on entend des propos comme ça. J'avoue que j'ai été prise de court quand j'ai entendu ce genre de propos-là. Je pensais pas que ça existait. Et c'est différent de lire dans un article puis de le voir dans un documentaire, dans un film. Je trouve qu'il y a une force performative au cinéma. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'aurai la chance de venir au CLAP à Québec. Oui. Donc, ça va être, je pense que ça va être le 23 novembre. Le 23 novembre, donc je serai là au CLAP. Si les gens veulent venir voir le film en salle, la version cinématographique, ça va me faire plaisir d'échanger avec le public de Québec.
Hey, merci tellement, Léa. J'ai pris un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu.
C'est moi qui est honorée de revenir à mon alma mater, puisque j'ai étudié en sciences politiques à l'Université Laval. Alors, merci pour vos questions, les filles. Pour vrai, ça fait du bien de parler à des gens qui ont lu mon livre.
Merci à toi. Pour vrai, t'es vraiment une source d'inspiration là, vraiment pour nous puis pour plein d'autres jeunes de la ville de Québec et de partout ailleurs au Québec, au Canada. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Puis c'est ça. Ça a vraiment été un honneur de te parler.
On se voit à Québec.
Yes. Oui. Merci beaucoup.
Merci. Bye bye.
Alors, voilà, c'était notre entrevue avec Léa Clamondion. Je vous rappelle que son livre « Salut, ça va » est « Dialoguer pour prévenir les violences sexuelles » est disponible dans toutes les librairies près de chez vous, les librairies indépendantes surtout. Je vous invite à ouvrir votre télévision et à écouter le documentaire « La peur au ventre » ce lundi 21 octobre à 20h sur les ondes de Télé-Québec. Pour vrai, je reviens pas encore de ce documentaire-là. Je Vous devez l'écouter. Sérieux, c'est un documentaire qu'elle qualifie, que je trouve intéressant, qu'elle qualifie... attendez, je recherche ce que j'avais noté. Bon, là, naturellement, je le trouve pas.
Est-ce que c'est le fait qu'elle dise que c'est une approche sociétale, oui, et non féministe?
Exactement, ouais. Exactement, Frédéric, parce que c'est ça. Le documentaire ouvre vraiment le dialogue. Puis je pense que c'est une des forces de Léa Clermont-Dion, c'est de vraiment d'ouvrir le dialogue avec toutes les différentes communautés, les différentes personnes de différents âges. Puis c'est quelque chose qu'elle fait de manière brillante dans le documentaire La peur au ventre, que vous allez pouvoir voir aussi en salle à partir du... Je vais vous dire ça dans un petit instant. Il va être en salle dans différentes projections à travers le Québec, entre autres, comme elle l'a nommé, le 23 novembre à Québec. Vraiment, là, un film à ne pas manquer, d'ajouter à votre liste de documentaires à écouter. On s'en va en musique, chers auditeurs, auditrices, et au retour, on va avoir l'occasion de continuer à parler cinéma, mais avec Nathan Murray. On va parler de cinéma ensemble. Et j'ai envie de vous mettre une chanson d'une artiste de la ville de Québec que j'aime beaucoup, qui va sortir son album, un album vraiment là, bientôt, là, en décembre. C'est Clara Daly. On va écouter sa plus récente chanson, Sweet Delight. Vous écoutez Chérie, j'arrive, sur Zone de Schiste, 94.3.
Sweet delight, une flamme s'allume dans tes yeux. Sweet delight, ton souffle brûle ma peau. You're my sweet delight, yeah. You're my sweet delight. Une étincelle qui m'embrasse. Yeah. Ah. Sweet delight, je veux apprendre.
êtes toujours, chérie, j'arrive, sur les ondes de Chiz 94.3. Et c'est maintenant l'heure de la chronique cinéma avec le seul et l'unique Nathan Murray. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Et oui! Et là, je suis tellement contente de te retrouver.
Mais oui, ça fait un bout, ça fait quasiment un mois.
C'est ça, là.
Donc, j'ai été vaincu par un terrible rhume. La dernière fois qu'on s'est parlé, ouais, c'était le lendemain du FCVQ.
C'est vrai. Parce que, puis c'est ça, t'étais à distance, t'étais malade. Fait que...
C'est ça, j'avais un sanglot dans la voix et une toux profonde. Mais me voici de retour en pleine forme.
Yeah! Très heureuse de travailler avec moi pour jaser cinéma, jaser des dernières nouveautés qui se passent en salle. Puis Dieu sait qu'il y en a, tu sais, des nouveautés.
Oui, il y en a beaucoup, mais le niveau est inégal. Il y a beaucoup. Faut dire qu'il y a beaucoup de sorties de films d'horreur.
Ouais, ben là c'est
pré-Halloween, hein? C'est un peu comme les films de Noël, on se les tape un mois et demi avant.
C'est
donc c'est pas toujours ça vient un peu phagocyter les écrans là au sens où ça limite les autres sorties. Puis c'est un genre qui est de plus en plus populaire, hein. Donc qui va chercher, c'est des films généralement à petit budget qui vont chercher de grosses audiences. Donc on a vraiment le plein là qui est fait. Bien franchement, c'est pas ma tasse de thé pour ne pas dire que moi je suis un petit oiseau apeuré, hein. À partir du moment où il y a quelque chose d'effrayant, je sursaute, je les rends sur l'entièreté de la salle et je me fais lyncher. Ce n'est pas le genre de film...
T'es pas le public cible.
Je suis pas le public cible, c'est ça. Je suis pas le public cible. Mais il y a d'autres choses à se mettre sous la dent. Notamment, je voulais commencer par un très, très beau film qui va quitter l'affiche du clap. Donc demain c'est sa dernière journée. C'est très dommage parce que c'est splendide. J'espère qu'il va être repris par le cinéma Cartier parce qu'il est resté à l'affiche très très peu de temps et ça fait à peu près, je pense que c'est sa deuxième semaine. Donc je parle du film L'écart en français, donc en anglais The Outrun, qui met en vedette la toujours fantastique Saoirse Ronan, hein, qui on connaît pour avoir joué dans Lady Bird, dans Brooklyn, qui avait fait son nom avec Expiation là, de Joe Wright. Une très, très grande actrice qui a été nommée, je pense, 3 ou 4 fois aux Oscars jusqu'à maintenant, sans jamais le remporter. J'allais dire que c'était un peu la Jennifer Lawrence de sa génération. Là. Quoique, contrairement à Jennifer Lawrence, elle n'a pas encore joué dans de mauvais films et brisé sa carrière. Donc, je tenais quand même à le préciser. Une actrice qui est vraiment donc exceptionnelle et qui joue dans ce drame britannique où elle interprète une jeune femme qui est originaire des îles Orcades. Donc, les Orcades, ce sont des îles très au nord de l'Écosse, hein, très peu habitées. C'est assez, disons que c'est battu par les vents, peu de végétation. C'est assez isolé comme milieu, là, petite maison de pierre, vent permanent. Là, c'est un mélange de Côte-Nord, île de la Madeleine et de toundra. Là, c'est un milieu qui est à la fois magnifique et un peu hostile à certains égards. Et donc, elle interprète une jeune femme originaire de cette contrée-là qui va vivre à Londres. Et qui, la première scène, hein, celle qui ouvre le film, c'est elle qui est complètement saoule, complètement perdue après une fin de soirée dans un bar. Et donc, elle se fait jeter dehors du bar après la fermeture. Et bon, à la suite d'une mésaventure qui lui arrive, elle... réalise finalement qu'elle est un peu au bout du rouleau. On comprend que c'est une femme qui souffre d'un problème d'alcool, hein, qui est alcoolique, et elle décide donc de retourner chez elle après avoir fait une thérapie, de retourner chez elle, hein, pour poursuivre sa lutte contre ce démon-là, où elle va retrouver ses parents, son père et sa mère divorcés, son père qui a une ferme donc aux Orcades, qui est bipolaire, hein, on le remarque assez rapidement, qui souffre au point d'être interné à plusieurs reprises là dans la vie de la jeune fille, et sa mère qui, elle, s'est tournée vers la religion, donc la foi pour faire face à ces problèmes-là. Et on a donc le personnage principal qui est un peu à cheval entre ces deux univers-là qui, chacun, lui cause certains troubles, hein, et elle s'imprègne des paysages, elle s'imprègne de ce monde-là un peu éloigné. Les images sont magnifiques avec les vagues, la mer qui qui nous hante, elle finit par s'inscrire, par travailler pour une sorte d'association de mise en valeur de la nature, hein, où esselée, elle doit rouler la nuit puis faire du quadrillage pour repérer un oiseau en voie d'extinction à son cri, là. C'est très méditatif, c'est très beau. Elle, Saoirse Ronan, est exceptionnelle. Donc, ceux qui jouent ses parents aussi, c'est Stephen Delane qui joue son père. Sa mère, donc, on la connaît, elle joue présentement dans Slow Horses là, sur Apple. Pour l'instant, son nom m'échappe, mais je vais vous retrouver ça à l'instant. Mais c'est un film d'une grande beauté, franchement. Je pense que c'est le plus...
Saskia Reeves?
Oui, tout à fait, qui est elle aussi exceptionnelle. C'est vraiment touchant. Je pense que c'est le plus beau film que j'ai vu cet automne, au sens où j'en suis sorti ému, là, la larme à l'œil. C'est vraiment très, très bien rendu. Ça peut être exigeant parfois parce qu'il y a beaucoup de retours en arrière. On se promène dans le temps de façon assez intense sans que ce soit annoncé. On n'est pas gentil en nous indiquant la date ou le retour. Là. Donc, c'est ce qui nous indique qu'on retourne dans le temps à différentes époques. Hein. Souvent, c'est les changements dans la chevelure du personnage principal, donc sa teinture, sa coiffure qui change. Mais c'est assez... après quelques retours en arrière, on comprend assez vite la logique. Là. Puis c'est vraiment très, très beau. Donc, il est encore présenté demain pour ceux et celles qui le souhaitent, un beau film de répertoire. Puis j'espère là, qu'il va être repris là, par peut-être le cinéma Cartier parce que c'est vraiment très très beau.
Un film de 2 heures.
Oui, c'est ça passe assez. Moi, j'ai trouvé que ça passait extrêmement vite. Il n'y a pas énormément d'action. Comme je l'ai dit, c'est méditatif.
Ça semble contemplatif comme
oui,
film.
Oui, c'est
comment
ça. Il y a quelques moments de crise, mais surtout, c'est finalement le cheminement d'un personnage tourmenté, puis dont les tourments sont assez bien reflétés par la nature grandiose qui l'entoure. Là, c'est splendide. On pourrait, du reste, écouter le film sans images, que ce serait magnifique, ne serait-ce qu'avec les sons et les voix. Puis de la même façon, on pourrait tourner le son, fermer le son, que ce serait magnifique aussi, là, tant les images et les plans sont très, très beaux.
Ben définitivement, la réalisatrice Nora Fingerscheid.
Je te laisse...
Oui, hein, ben, je te laisse massacrer le nom.
De prononcer le nom.
Mais je pense que, en tout cas, comment tu décris ça reste, ça va être une réalisatrice probablement à surveiller. Là,
Oui, ben elle s'était déjà fait un nom avec son film précédent, donc c'est la deuxième fois là, que dans le milieu du film indépendant, il surgit comme ça. Puis franchement, c'est pour d'excellentes raisons.
Mmh. Là, le deuxième film que tu nous présentes, c'est une comédie thriller qui s'appelle Saturday Night.
Oui, bon, thriller, on s'entend. Je ne sais pas qui a fait la catégorisation, mais thriller peut-être au sens où c'est extrêmement stressant. Tout le monde connaît Saturday Night Live,
ouais,
donc l'émission de télévision aux États-Unis qui a... lancé, consacré d'immenses vedettes, puis encore aujourd'hui cartonne à la télé. Donc, ce film-là, ce sont les 90 minutes qui précèdent le lancement du premier épisode.
Wow.
Donc, on commence très exactement aux 90 minutes. Donc, il est 10 heures. L'émission doit être lancée à 11h30. Et on est projeté dans cet univers-là. Autant l'autre film est contemplatif, autant celui-ci est dans l'action, la surexcitation, la sursollicitation. On est projeté un peu sans contexte, au sens où il n'y a aucun retour en arrière. Ce sont les événements tels qu'ils se déroulent. Et donc, on voit l'ensemble des personnages hein, qui font partie ou qui vont faire leur nom dans le premier Saturday Night Live. On voit Billy Crystal, donc une tonne d'autres... Hein, l'idéateur incarné le personnage principal. Donc, si on n'a pas ces repères-là, les personnages sont rapidement nommés. Il y a George Carlin aussi, donc plein de grands noms de l'humour de la télévision américaine dans les années suivantes. Mais si on n'est pas familier avec ces noms-là, moi, je suis pas un spécialiste de Saturday Night Live au sens où je regarde des sketchs là, comme tout le monde sur YouTube de temps en temps, mais je suis pas l'émission religieusement. On est rapidement en perte de repères. Hein. Non pas que... Et cette perte de repères-là dans une réalisation qui est étourdissante, un enchaînement de plans, dialogues qui se succèdent. Comme je l'ai dit, il y a toujours de l'action à l'écran, des cris, des discussions, des débats, des personnages qu'on n'est pas nécessairement capable de situer. Ça nous fait ressentir toute l'urgence, tout le chaos, et c'est l'objectif, hein, de voir comment la naissance de cette émission-là, où finalement, c'est presque un accident, hein, le producteur de NBC qui voulait la présenter. Pour lui, c'était une manière de faire accepter les reprises à Johnny Carson qui animait les talk shows de fin de soirée. Donc, il y avait l'enregistrement, la reprise du late show qui était prête. Puis, il voulait, au fond, faire baisser le montant du contrat de Johnny Carson en lui faisant accepter de passer des reprises de son émission là, à heure d'écoute, par exemple, la fin de semaine. Donc, on sent qu'il croit pas du tout. Et c'est comme ceux-mêmes qui font partie du projet ont aucune idée de ce qu'ils vont faire ou à peu près. C'est un esprit, c'est quelque chose qui se construit en direct au fur et à mesure qu'on écoute le film. Ça donne une impression un peu mitigée, au sens où les effets de réalisation sont extrêmement réussis. On ressent littéralement ce bouillonnement-là, cette incertitude, cette angoisse. On est littéralement sursollicité, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant toute la durée du film. Mais ça vient aussi avec... On en sort un peu avec... Ça servait à quoi tout ça? Puis est-ce que j'en ai tiré quelque chose au-delà de l'impression de chaos qui entoure le film? Est-ce que vraiment j'en sais plus sur Saturday Night Live?
Pas vraiment.
C'est peut-être plus un exercice de style qu'un exercice sur le contenu. Ceux qui adorent l'émission, là, qui sont des fans de l'humour, de la télévision des années 70-80, vont y trouver leur compte. Il y a de très, très beaux caméos. J.K. Simmons, notamment, qui est mémorable dans une des scènes. On a affaire aussi à William Dafoe, qui est le grand ponte de la télévision, mais tout ça, ça demeure vraiment très spécial dans la forme et franchement, je suis pas sûr que j'en suis ressorti avec plus de plaisir que de désagrément.
Mm-hmm. Puis, est-ce que pour terminer, est-ce que tu as un autre film qui est encore à l'affiche à nous présenter? On serait plus dans le moment où on va dans...
On peut se projeter un peu plus loin. D'avoir un mot sur Joker, Folie à
deux. Ah oui, ça fait jaser.
Que
je n'ai
pas encore vu, mais effectivement, qui a craché au box-office. Entendons-nous, là, j'ai un ancien prof de cinéma qui soulignait 40 millions pour un film qui crache. C'est quand même pas si mal de revenus, mais il a coûté beaucoup plus cher que ça à faire. Et ce même professeur de cinéma, André Caron, pour ne pas le nommer, insistait sur le fait que le film est subversif au sens où ceux qui sont tournés en dérision finalement dans le film, où le sujet du film c'est ceux qui croient en ces super-héros-là, alors que les super-héros ne croient pas nécessairement en eux-mêmes, hein, finalement. C'est un des ressorts du film, finalement, c'est que le personnage de Joaquin Phoenix finit par se rendre compte qu'il n'est pas le Joker, ce personnage mythologique. Et donc, c'est un peu une déconstruction de la mythologie du super-héros qu'on subit puis qu'on nous tartine à grand renfort d'écran depuis 12-15 ans, là, depuis le début du cycle des Avengers avec Iron Man 1. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une note discordante parce que généralement, les critiques, comme l'avis du public surtout, a été assez assassin, mais c'est peut-être justement ce retour-là du balancier puis l'aspect plus critique du film de Todd Phillips là, qui a joué, au sens où j'avais aucun intérêt après avoir vu les critiques de voir le film, alors que les bandes-annonces me l'avaient plutôt bien vendu.
Ben c'est ça, puis je pense que c'est ça aussi ce que moi j'ai lu par rapport au nouveau Joker, c'est ça, c'est que la bande-annonce est super prometteuse, mais nous promet quelque chose qui n'est pas vraiment mis dans le film. Juste par exemple, Lady Gaga, qui est comme dans toutes les bandes-annonces du film, mais qui n'a pas un rôle principal du tout là, dans le film, puis qui fait que sa présence est vraiment secondaire. Juste ça, je pense, ça a choqué les fans.
Plusieurs personnes, effectivement. Puis, mais ce cet aspect critique-là, finalement, m'a peut-être convaincu d'y aller, d'aller le voir, finalement. Il était encore à l'affiche. On ne sait pas si c'est pour longtemps. Les films ont tendance à quitter l'affiche assez rapidement ce temps-ci. On n'a qu'à parler qu'à penser au Mégalopolis là, de Francis Ford Coppola, qui a tenu à peine 2 semaines en Amérique du Nord au complet. Donc,
qu'est-ce qui explique ça, qu'un film ne garde pas l'affiche aussi longtemps?
Ben, c'est le fait qu'il ne fasse pas d'entrée, que des films à plus grande entrée arrivent sur les écrans. Aussi, on a certains films qui ont eu la vie dure depuis l'été, au sens où ils ont été populaires pendant très longtemps. Je pense au Comte de Monte Cristo, qui est encore à l'affiche. Il est sorti à la mi-août. Je pense à Deadpool et Wolverine, qui a tenu l'affiche pendant 2 mois et demi, presque 3 mois. Donc ça, c'est des écrans qui sont occupés et qui ne sont pas ouverts aux nouveautés. On a parlé de l'arrivée des films d'horreur là, qui bloquent un peu les écrans. Puis, il faut parler aussi du fait qu'un film qui ne rencontre pas le succès, hein, qui réussit pas à attirer son public en salle, est assez rapidement retiré par les distributeurs ou par les cinémas. Et c'était le cas du film de Coppola, là, qui avait déjà fait un four à Cannes, là, puis qui a été assassiné à sa sortie par à peu près toutes les critiques, là, en tout cas au Québec et en Amérique du Nord en général, là, ce qui fait qu'il a fait à peine des peanuts au box-office. Là. Puis franchement, je pense que j'ai entendu une personne qui m'en a dit de bons mots là, sur l'ensemble, dont des fans de Francisco Ford Coppola qui étaient là, je peux pas croire que c'est là-dessus qu'il va finir sa carrière.
Puis est-ce qu'il y a d'autres films à surveiller selon le radar Nathan Murray?
Il y a des choses assez intéressantes qui vont prendre l'affiche. Là. Je vais mentionner rapidement une comédie romantique, donc We Live in Time. Donc c'est un genre qui peut toujours changer un peu l'idée des films d'horreur. Puis c'est surtout sa distribution, Florence Pugh et Andrew Garfield, qui sont au cœur de ce film-là. Donc L'amour au présent en français. Bon, le titre est horriblement cucu. Ce sont deux acteurs assez pétillants dont on peut attendre peut-être quelque chose d'assez intéressant. Autre film là, sur lequel j'attire votre attention, un peu plus tard en octobre, Conclave d'Édouard Berger, celui qui a réalisé All Quiet on the Western Front, donc le film de guerre, hein, la guerre du point de vue allemand, et qui a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, donc l'année dernière ou la précédente. Et cette fois-ci, la distribution est affolante. Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow qui jouait Churchill dans The Crown, Isabella Rossellini. Donc, c'est une distribution éclatante. C'est un film religieux, une sorte de thriller religieux. Le pape est mort. Il faut élire un nouveau pape. Chose vue et revue. La bande-annonce est très étonnante. Puis avec cette qualité-là d'acteur, je vois mal comment ça pourrait être un échec, là, à moins que le scénario soit totalement irréaliste. En tout cas, la bande-annonce est fascinante.
Ben, j'ai déjà très hâte d'en rediscuter avec toi, Nathan. C'est toujours un plaisir de parler cinéma à tes côtés. On se retrouve...
On se revoit dans une couple de semaines, tout à fait, pour qu'on revienne sur ces films-là.
Ces nouveautés-là.
De mentionner, tout à fait. Là. Puis novembre, là, ça va être les gros canons qui vont commencer à sortir.
Mm-hmm. Ben, novembre, qui dit novembre dit saison d'automne, dit cocooning, dit on se précipite dans les cinémas.
Chocolat chaud dans une bonne salle de cinéma et popcorn pour ceux qui ont des goûts particuliers comme moi.
Hey, merci Nathan,
ça fait plaisir.
Et ben pour notre part, chers auditeurs, auditrices, on s'en va en moment publicitaire, mais restez à l'écoute car au retour, on parle avec votre chroniqueuse théâtre, Margot Ganassa. On va parler des dernières nouveautés théâtrales, entre autres la pièce Un arrière-goût de compost qui est à l'affiche encore pour une semaine, pour les prochains jours au théâtre Premier Acte, ainsi que Paul à la maison présenté au Périscope.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Allô Patrick, comment ça va?
Ben ça va bien toi?
Ah, pas très bien. On dirait que je sais pas quoi écouter comme musique.
Ah ouais, ben j'ai une solution pour toi. Écoute Le Monde d'Éric Arsenault, c'est vraiment bon. Il y a plein de musique qui va te remonter le moral.
Ah oui? Qu'est-ce que c'est?
Ben, il y a plein de nouveautés de tous les styles musicaux, comme la musique anglophone, francophone, autochtone, il y a même la musique punk et metal.
Ah ouais?
Et en plus, c'est vraiment cool, il y a la musique no country, rap, reggaeton, EDM club, sans oublier découvertes internationales, ainsi que la réaction forte de la semaine.
Ben là, les fans de musique, réveillez-vous! À quel endroit on peut retrouver ça?
Tous les dimanches, entre 19h à 20h30, à Chiz. 94.3.
C'est de rendez-vous.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
La passe est captée par son receveur. Touché, Rouge et Or.
Le Rouge et Or de l'Université Laval accueille les Redbirds de l'Université McGill ce samedi 20 octobre à 13h au stade TELUS. Ne manquez pas l'avant-match des 12h30 avec notre équipe de division. Ils mettront la table pour ce dernier match à la maison du calendrier régulier. Rouge et Or, Redbirds, ce dimanche à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Droit de parole, c'est l'émission de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval, dans laquelle on reçoit des comités de notre association étudiante, des professionnels et des membres de notre faculté afin de démystifier les divers domaines du monde juridique. Tu as toujours voulu savoir si les études en droit étaient dignes de Legally Blonde? Tu te demandes si les avocats ont vraiment une carrière comme celle que tu vois dans Suits? Tu es simplement intéressé par l'actualité et le domaine juridique? Tu es donc invité à la barre pour écouter Droit de parole tous les jeudis de 13h à 14h sur les ondes de Chiz 94.3.
Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Le théâtre Premier Acte présente Un arrière-goût de compost.
Christophe?
5 ans après la disparition de son grand frère, Éléonore l'aperçoit par hasard dans le jardin communautaire de leur enfance. S'ensuit un débat animé autour de l'abandon, des troubles alimentaires, du jello et des chats morts. Venez découvrir ce huis clos à la fois drôle et touchant, présenté du 8 au 19 octobre 2024.
Bonne fête. Je te souhaite bien du bonheur, puis des flats à vélo.
Une production du Théâtre du Refuge, billets en vente sur premieracte.ca.
Premier Acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec et Le Soleil.
Vous écoutez toujours Chérie J'arrive, saison de Chiz 94.3. Et pour terminer l'émission en beauté, on va parler théâtre avec, avec votre chroniqueuse théâtre, Margot Ganassa. Salut, salut!
Salut!
Hey, très heureuse de te retrouver pour parler du merveilleux monde du théâtre. Parce que, hein, on va se le dire, il s'en passe des belles pièces et des belles choses dans les théâtres de la ville de Québec.
Oh oui, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Ça te garde très occupée, là. Entre autres, t'es allée voir, tu vas nous parler de deux pièces pour commencer. Une pièce qui est présentée encore présentement au Trident, Paul à la maison.
Oui, Paul à la maison qui est là pour pas longtemps encore. En fait, les deux choses sont là pour encore pas trop longtemps. Donc, restez à l'affût puis achetez vos billets pas longtemps après l'émission. Paul à la maison, c'est un spectacle de théâtre qui... reprend un peu les BD Paul à la maison. pour ceux qui connaissent, là, moi je connaissais pas du tout, puis même si je connaissais pas du tout, ça m'a donné envie de lire, puis j'ai trouvé que l'équilibre entre l'univers de la BD puis le réalisme du quotidien était vraiment cool. Ce qui revenait beaucoup à la sortie du spectacle, c'était touchant, très simple, belle simplicité de la pièce. La mise en scène de Lorraine Côté est vraiment incroyable. Ça vaut le détour. Pour ceux qui connaissent un peu Lorraine, il y a sa touche personnelle. C'est vraiment génial. La distribution est excellente, très forte, très unie sur scène. Belle brochette d'artistes. Personnellement, j'étais peut-être au pire banc là, pour les angles de vue de la scène. Puis malgré ça, j'ai tout vu, tout compris. Il y avait un peu de marionnettes. J'avais pas accès aux yeux. Puis malgré ça, j'ai quand même tout compris. Beaucoup ri, beaucoup pleuré. Donc, c'est ça. Gros shout-out aussi à l'écriture de Anne-Marie Olivier, qu'on reconnaît dans sa sensibilité puis la justesse de son écriture. Pour ceux qui connaissent un peu Montréal, moi, ça m'a rendu nostalgique en tant que personne qui vient de Montréal. Je vous conseille vraiment cette pièce. J'ai adoré. Je me suis entretenue avec Anne-Marie Olivier, qui m'a parlé un peu de processus de création, qui disait qu'il y avait beaucoup d'allers-retours dans l'écriture, qu'il fallait convaincre l'auteur, puis dialoguer avec la mise en scène, qu'il y avait beaucoup de finitions, beaucoup de détails, puis je la cite, être sûr que tous les humains se sentent bien et respectés là-dedans. Puis ça, on le sent vraiment quand on regarde la pièce, qu'il y a eu ce souci-là.
Puis comment est-ce que... Parce que moi, je connais les BD Paul à la maison. Dans quel, mais pour ceux peut-être qui seraient moins familiers avec cette BD-là, dans quel univers est-ce qu'on est plongé autre que dans celui de la BD?
On est vraiment dans le quotidien du personnage principal, Paul. Puis on le suit dans ses problèmes de sommeil. On le suit dans son quotidien, à son bureau. On visite son bureau. On visite aussi différents lieux très, très rapidement. Les transitions sont d'ailleurs incroyables. Puis on a accès vraiment à tous les personnages hauts en couleur autour de Paul, son voisin par exemple. À un moment donné, il va donner un cours dans une école, dans une polyvalente, puis il y a les élèves de la polyvalente, comment c'est reçu. Fait que c'est ça, c'est très quotidien comme show. Puis évidemment, il y a la mère de Paul, qui est un personnage central aussi. Puis je veux pas voler le punch sur le développement du fil de la mère, mais vraiment, c'est ça, c'est très bon.
Puis ce que je trouve beau aussi dans la distribution, c'est que c'est super multigénérationnel. Ce que je remarque tout de suite là, en voyant la distribution, ce que je trouve très beau dans les propositions au théâtre, de mettre de la place, autant pour les jeunes de la relève, mais aussi pour des comédiens plus établis. Ça a l'air d'être le cas dans Paul à la maison.
Oui, je ne l'ai pas nommé, mais il y a la fille de Paul qui est jouée par Odile, qui la relation père-fille aussi, qui est vraiment intéressante. Puis on sent aussi beaucoup cette espèce de solitude voulue, semi-voulue, cette espèce d'atmosphère de « je suis un homme qui vit seul dans une grande maison et qui a son quotidien, mais qui travaille aussi seul. » Puis qui ses interactions avec le monde sont très, très ponctuelles. Fait que c'est intéressant de voir ça. Puis son chien aussi. La marionnette dont je parlais, c'est
un chien. Oh, wow!
Ouais, un chien. Extrêmement beau, la relation entre le chien et l'humain.
Mais je trouve ça beau de plus, dans ce début de saison-là, de théâtre, là, c'est comme la deuxième fois que tu me parles de marionnette, puis ben, j'en suis vraiment ravie parce que c'est un univers qu'on voit moins, je trouve. Puis je trouve qu'il est quand même mis de l'avant là, dans les théâtres cette année, ben, pour ce début d'année, fait que j'en suis très ravie.
Après, c'est pas le main point de la pièce, là, la
non,
marionnette.
C'est juste,
c'est intégré dans l'univers. Mais oui, moi aussi, je trouve que c'est un super médium qui gagne en popularité de plus en plus et c'est beau à voir. À la question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est pas encore sûr d'acheter son billet? Anne-Marie Olivier a répondu que c'est sûr que tu vas rire, c'est pas mal sûr que tu vas pleurer aussi. C'est une œuvre populaire qui est pour tout le monde, puis tu peux triper de 11 ans à 60 ans et plus. Je suis entièrement d'accord avec ça. Puis, il existe toutes sortes de théâtres, hein? Fait que pas game d'y aller puis de les découvrir.
J'adore. Hey, en plus, je viens de voir que ben Paul à la maison, c'est au théâtre du Trident du 25 septembre au 19 octobre. Mais il y a une supplémentaire aussi qui s'est rajoutée le 20 octobre à 15h. Fait que une journée de plus, deux journées de plus même pour voir... Une journée de plus, pardon. pour voir la pièce, il faut aller directement sur le site letrident.com pour acheter vos billets.
Puis, je rajouterais aussi, c'est quelque chose qui me vient de mon entrevue avec Anne-Marie. Elle a dit une chose que j'aimerais bien repartager, c'est qu'on a beaucoup été reçu que le théâtre, c'est un art bourgeois, entre autres à cause de ses origines, du prix des billets, c'est comme une idée reçue qu'on a. Mais le théâtre, c'est pas juste ça. Puis ça, c'est un bon exemple de pièce qui n'est pas juste ça. Fait que, voilà.
Et le théâtre Premier Acte, qui ouvrait sa saison 2024-2025 avec une pièce qui fait beaucoup jaser aussi, qui s'appelle « Un arrière-goût de compost », que tu as eu la chance de voir et que moi aussi j'ai eu la chance de voir pour l'ouverture de la pièce. Ouais.
Ben, c'est une courte pièce d'une heure sans entracte, en huis clos extérieur. Fait qu'on est dans
ça
dans
veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça, un huis clos? En théâtre?
Bonne question. Un huis clos, c'est quand les personnages sont d'habitude enfermés dans une pièce et qu'ils ne peuvent pas sortir de la pièce. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que les personnages ne sont pas à l'intérieur, sont dans la journée communautaire, mais à cause de ce qui se passe, à cause de la conversation, à cause des émotions, ils ne peuvent pas sortir du journée communautaire. Fait que j'avais vraiment l'impression d'assister à un huis clos, mais en extérieur, puis j'ai trouvé ça très innovant. Ouais. Fait que ça raconte l'histoire d'une sœur et d'un frère, une sœur qui attend son frère qui finalement revient. Puis encore une fois, je ne veux pas voler trop le punch sur l'histoire parce que il y a plein de petits rebondissements intéressants à voir. Mais je tiens à dire que les interprètes sont vraiment excellentes, que c'est franc, c'est direct, c'est encore une fois simple, mais c'est pourtant tellement complexe à l'intérieur. On sent vraiment comme le chemin émotionnel qui bouillonne chez les deux personnages, puis on a accès à ces sensibilités-là individuelles au courant de la pièce.
Mmh. Ouais, c'est vraiment une pièce qui m'a... Moi, ça m'a touchée, là, vraiment. Là, je suis sortie de là un peu déboussolée par la pièce. Surtout qu'on, tu sais, dans la pièce, ben, tu sais, Éléonore, qui est la sœur, cherche à comprendre, tu sais, pourquoi son frère fuit là, pendant 5 ans. Sans donner de nouvelles. Puis, tu sais, dans le monde où on vit, où on faut qu'on... Comment? Je trouve ça... En tout cas, c'est dur de ne pas révéler de punch parce que c'est comme, tu sais, la pièce est vraiment d'une heure, tu sais, mais ça... On a ce dialogue-là qui se bouscule entre les deux personnages. Puis c'est vraiment de teinter... Ben, des fois, c'est difficile de communiquer de certaines choses qu'on vit, même avec les gens à qui on est le plus proche, même avec notre famille, tu sais.
Ouais, puis il y a un sujet qui est exploré dans la pièce que j'ai d'ailleurs entendu avec la publicité du show juste avant, qui est le trouble alimentaire. Ce qui est intéressant, c'est que là, le trouble alimentaire est abordé d'un côté émotionnel et non uniquement didactique. Mm. Chose que m'a fait remarquer Charline, qui est la scénographe du spectacle avec qui je me suis entretenue, qui a fait décor, costume et accessoires. Si je peux donner quelques mots, j'aime bien parler du show, mais aussi des conceptions du show et pas juste du jeu. Elle m'expliquait un peu son processus, puis elle savait qu'elle voulait un endroit monochrome, teinte terreuse, pour représenter le côté mort. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le décor est très, très poétique. On est dans un endroit réaliste, mais comme parallèle à la réalité. Puis c'est pour ça que les personnages font pas que des bacs de terre un peu moisis, puis de la remise dans des crissures. C'est parce que c'est pas ça qu'ils voient. Ça, c'est ce que nous, on voit, parce qu'on comprend. On comprend que ça représente l'évolution, la dégradation à travers les années de la relation. Ton personne a pris soin entre deux personnages, parce que, comme tu dis, il y a 5 ans quand même de vide qui les sépare. Puis c'est ça. Puis vraiment, le son aussi a participé à ça. Toutes les conceptions se servaient vraiment l'une à l'autre. Mais particulièrement la relation son-décor sert vraiment le propos de la pièce.
C'est vrai. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, la conception sonore de la pièce qui supporte là, vraiment le jeu. Puis ben, je tiens à rappeler que cette pièce-là aussi est au théâtre au théâtre Premier Acte pour sa part, mais jusqu'au 19 octobre, sans supplémentaire pour celle-ci. Alors dépêchez-vous, allez la voir.
C'est fini
dans 2 jours. 3 jours.
Exactement.
Là, il nous reste très peu de temps. Alors peut-être qu'on pourrait parler brièvement de la...
Rapidement.
Oui.
Ouais, super rapidement, il y a le show, le premier show de finissante du Conservatoire d'art dramatique de Québec qui s'appelle Détour de chant. C'est un spectacle unique un collage de 9 des romans de Régent du Charme écrits par Geneviève Tremblay. Je me suis entretenue avec une élève du Conservatoire qui me dit que c'est comme s'il y avait une caméra qui passait d'un personnage à un autre. Il y a 18 chansons originales, puis pour un conservatoire de jeu qui n'est pas un conservatoire de musique, c'est quand même un gros défi de chanter tout ça. Elle m'a dit, on prétend pas être des chanteurs, c'est vraiment au service du personnage. Ça a l'air incroyable, moi je vais le voir ce soir. Pitchez-vous sur les billets, il n'y en a pas tant.
Ça se remplit vraiment vite, pour avoir déjà vu des pièces au conservatoire, là, c'est tout le temps.
Ah oui, ça se remplit vite, oui. Fait que c'est un gros trip de gang de textes de Régence du Charme, puis c'est un show qui a été joué, qui a été fait il y a 10 ans, pour la première fois, puis la dernière fois qui a été joué, c'est à premier acte en 2014, puis 10 ans plus tard, c'est au conserve que ça se passe, c'est maintenant ou jamais, on ne sait pas, c'est peut-être la dernière fois, la dernière vie de ce show-là. Fait que pitiez-vous. Puis, j'aimerais aussi dire que le Conservatoire de Québec, c'est des shows qui sont super abordables. Fait qu'on parlait justement de théâtre abordable. Des fois, les billets, mettons, du Trident sont un peu plus chers. Mais là, c'est une bonne façon d'aller au théâtre, pas trop cher.
Et d'encourager la relève des comédiens et comédiennes.
Oui.
Ça, pour conclure, ben toi, Margot, t'es la directrice générale de la compagnie de création Tête de l'Or. Et tout le mois d'octobre, vous êtes en campagne de sociofinancement et vous organisez divers événements, entre autres à la Charpente des Fauves, pour soutenir la mission de Tête de l'Or. Qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre, là?
Oui, ben on a plusieurs événements. Le prochain qui s'en vient, c'est le samedi 19 octobre. Il y a plein d'affaires qui finissent le 19, hein.
Ouais.
Mais là, ça commence. Donc, le 19 octobre, à 20h, il y a un bingo à la Charpente des Fauves, animé par la drague Linda Coke. Il y a plein de prix à gagner. On a des super commandites, entre autres la librairie Pantoute, le cinéma Beaumont. On a aussi plein d'objets insolites, genre une peluche de montre, des napperons, savon vaisselle. Bref, viens soutenir la relève artistique multi en t'amusant avec nous. Il va y avoir un bar sur place. On a des entrées inclusives aussi, même prix que le concert, entre 8 et 15. Puis, donc, tous les détails sont sur l'événement Facebook. Tu peux réserver ta place en ligne ou payer à l'entrée. Donc ça, c'est le bingo. On a d'autres événements qui s'en viennent, mais on y reviendra peut-être plus tard. Le 23 octobre, il y a un cabaret poétique avec 17 performances et lectures qui mélangent cirque, drague, burlesque, théâtre, poésie, bref, plein de choses, même le DJ set. Encore une fois, les détails sont sur Facebook. Puis, du 21 au 23, il y a une friperie dans le hall de la Charpente des Fauves, toujours, à quand même petit prix, avec beaucoup, 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 beaucoup de stock pour tout le monde. Fait que pitiez-vous, ça va être vraiment le fun.
Puis je vais vous dire, chers auditeurs, auditrices, la sélection de vêtements de la compagnie de création Tête de l'Or est toujours incroyable et super abordable. Si vous voulez voir là, tous les événements de Tête de l'Or, vous pouvez les